Je suis Charlotte Casiraghi et avec la Maison Chanel, je vous présente le podcast Les Rencontres. En marge des rendez-vous littéraires rue Cambon, ce podcast met en lumière l'acte de naissance d'une écrivaine. Vous pouvez écouter ces épisodes et leurs autrices sur vos plateformes préférées.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, depuis presque 30 ans, depuis l'an de grâce 1990, précisément, a ses sens en éveil dès qu'on nous propose d'embarquer le temps d'une séance en salle à bord d'un sous-marin. La faute, évidemment, notre chouchou d'amour John McTiernan et sa poursuite d'Octobre Rouge imprimée au fer rouge dans nos mémoires. Alors, certes, bien souvent, nos espoirs et notre entrain furent violemment douchés par des productions assez catastrophiques, à des années-lumière de l'indépassable modèle précité, mais quand même, à chaque fois, on y retourne, on replonge sans mauvais jeu de mots et nous avons une nouvelle fois tenté l'aventure avec Kursk, le nouveau film de Thomas Vinterberg dont nous allons et tout de suite avec un trio de plongeurs en eau trouble réunis ici à l'antenne Paris. David Honora, salut David.
Salut.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 158 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Kursk, comme son nom l'indique, raconte l'histoire vraie, dont je pense nous nous souvenons à peu près tous, du terrible incident du sous-marin nucléaire russe K-114 Kursk, qui en août 2000 a coulé dans l'océan Arctique avec à son bord 118 membres d'équipage prisonniers de ce cercueil de métal dont ils ne sortiront jamais, en partie à cause de la mise en branle très poussive des opérations de sauvetage et de l'attitude un peu étrange des autorités russes, au grand désespoir évidemment des familles et même de l'opinion internationale très choquée par ce drame d'une ampleur inédite.
Report. Two acoustic events.
Mother of God.
Survivors?
Captain, we heard something happen to the Kursk.
Derrière la caméra, on l'a dit, c'est le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur entre autres de Festen, de La Chasse ou de La Communauté. Et au casting, on trouve Colin Firth, Léa Seydoux, Matthias Schoenaert, le vétéran Max von Sydow ou encore Michael Nyquist, qui est décédé d'ailleurs juste après le tournage. Votre avis sur ce Kursk, les amis? Alors attention, je précise que ça a été en partie tourné à Brest, donc faites gaffe à tout ce que vous allez dire. David.
Tout ce qui est tourné à Brest est génial.
Voilà. Merci.
Alors déjà, en fait, t'as entre guillemets un petit peu spoilé le film.
C'est une histoire vraie, donc.
Mais c'est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'on sait que le Titanic coule. Alors moi, je me souvenais de l'événement et je me souvenais pas exactement de l'issue. Du coup, pendant le film, j'étais un petit peu pris par savoir comment.
Est-ce qu'ils vont s'en sortir?
Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Alors les gens qui avaient pas compris ton intro sont à nouveau spoilés.
Voilà, c'est ça. Double spoil.
Mais voilà. Et du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, en fait, ça me rappelle. J'ai l'impression que le film s'inscrit dans une sorte de vieille tradition du cinéma de studio, je dirais, de l'âge d'or hollywoodien, où en fait tu prends un très bon sujet avec une histoire d'homme, de courage, etc. Et puis tu t'arranges avec la réalité, les langues, etc. Parce qu'il y a un truc quand même assez fondamental dans le film, c'est que ça se passe en Russie, tout le monde parle en anglais, y compris des acteurs français comme Léa Seydoux qui joue la femme d'un des sous-mariniers. Et on est dans ce truc un peu à l'ancienne, hein, finalement, de faire ça, quoi. Dans les films récents, on aurait plutôt tendance à dire, s'ils sont russes, ils parlent russe. Et donc là, on se préoccupe pas trop de ça, ce qui est un petit peu gênant et en même temps pas tant que ça. Enfin, moi, je m'en suis satisfait. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans le film, qui est plutôt... c'est intéressant quand même de suivre la trajectoire de Vinterberg parce que donc un réalisateur qui a commencé avec le dogme, avec il a fait.
C'est un des fondateurs du dogme.
C'est un fondateur du dogme avec Lars von Trier et en fait il fait le premier vrai film du dogme avec Festen. Le dogme, pour raconter un petit peu ce que c'est un ensemble de lois de mise en scène qui et cherche grosso modo à refuser toute artificialité. Donc l'idée c'est de pas rajouter de bande sonore, de pas ajouter d'éléments de décor tournés avec ce que tu as sur place. Il y a plein de règles comme ça très strictes qui ont donné un certain nombre de films dans la foulée, notamment au Danemark et ailleurs. Après, le dogme peut être réutilisé un peu par n'importe qui. Et puis, à la fois Lars von Trier et Vinterberg s'en sont éloignés.
Oui.
Et Vinterberg, ces dernières années, a été assez productif. Et après un assez gros coup d'éclat, je dirais, avec La Chasse, qui était en compétition à Cannes, ces quelques derniers films sont des films dans lesquels on a du mal à reconnaître son identité et qui sont plutôt des films de bonne facture comme celui-ci, mais qui se concentrent vraiment sur les personnages et sur l'histoire. Et comme on est là sur un sujet qui est vraiment un sujet de personnages et de comment les gens, les personnages gèrent leur rapport à l'honneur, à la politique, aux enjeux à la fois moraux et étatiques. C'est presque une variation sur Antigone, en fait, le truc de est-ce qu'il faut préserver l'honneur de la Russie ou aller sauver
les
hommes,
gens,
quoi qu'il arrive. Ça fonctionne plutôt bien et on a une galerie de personnages assez large dans un espace très confiné qui est celui du sous-marin. Et notamment, je dirais, grâce à des seconds rôles, et notamment il y a un acteur danois qui a une sorte de gueule un peu... alors je suis incapable de ressortir son nom, mais il jouait d'ailleurs dans La Communauté c'est celui qui raconte une blague d'ours polaire dans le film que je trouve très bon et qui apporte un truc dans cette galerie d'acteurs qui sont quelques stars internationales et d'autres plus méconnus. Il y a un équilibre qui fonctionne pas mal.
Stéphane ?
Ouais, c'est effectivement un film de bonne facture pour moi, en fait, à ce problème majeur d'être tiré d'une histoire vraie, ou dans le sens où, non pas parce qu'il est tiré d'une histoire vraie, mais parce que Thomas Vinterberg l'aborde, s'arrête à ces éléments-là, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas construire vraiment de suspense autour de ça, il ne va pas construire de dynamique de mise en scène autour de ça, j'imagine, j'ai l'impression, par respect pour les gens qui ont vécu cette tragédie, ces victimes, voilà. Mais y compris, enfin, tu vois, par exemple, il y a une scène, c'est un truc, que, si tu clignes des yeux, tu passes complètement à côté, mais il y a cette scène où, justement, tu vois, les parents, les familles, en fait, se révoltaient pendant une conférence de presse, et t'as notamment la mère, je crois que c'est la mère, si je dis pas de bêtises, du personnage de... Ah, j'ai un trou là, comment il s'appelle
de Oxdil.
Ah ouais, voilà. Et en fait, elle est en train de se révoler, elle fait voler une chaise, je sais pas quoi. Et en fait, pour la calmer, les mecs lui injectent un truc et tu sais pas ce que c'est, tu la revois plus.
Et ça
disparaît complètement. Et c'est un truc où tu te dis, mais.
Ah, c'est la Russie. Hein.
Mais alors, non, mais là, justement, en fait, le truc, c'est que là, d'un seul coup, on sort complètement, en fait, de parce que j'imagine, je sais pas, il devait pas avoir les faits derrière, ou en fait, ils se sont dit, on va pas s'attarder là-dessus. Et tu sors complètement, en fait, de ce que tu es censé regarder, c'est-à-dire un film, littéralement, pour voir un espèce de compte-rendu, en fait, si tu veux, de certains événements. Et alors, il me semble, en fait, dans la fabrication du film, qu'à la base, Vinterberg voulait beaucoup plus pousser l'aspect politique du film, l'aspect critique de l'administration russe, l'aspect fiasco sur le truc, et que c'est Besson, qui est producteur sur le film, qui a un petit peu poussé dans une direction, et notamment au scénario, à l'écriture du scénario, dans une direction un peu plus humaine, en fait, c'est-à-dire traiter vraiment l'approche humaine du récit. Et là-dessus, c'est pareil, j'ai un peu ce problème-là. C'est encore une fois, c'est pas un mauvais film, hein, loin s'en faut. C'est un film de bonne facture. On est quand même loin de l'époque du dogme où, ce truc, c'était une arnaque totale. C'est un coup de market, en fait, juste pour faire parler d'eux à Cannes. Pendant l'espace de 2-3 ans, ils en ont fait 2-3 comme ça, puis après les autres films, ça fait qu'on a oublié. Et du coup, en fait, t'allais au cinéma pour voir des films dégueulasses, tu vois, parce que c'est ça, c'est parce que c'est pas seulement, c'est pas d'artifice, c'est pas de lumière, pas de machin, pas de truc, donc au bout d'un moment, c'est le caméscope de ta voisine qui filme ses vacances, quoi. Sauf qu'il s'encule, ou j'en sais rien, tu vois, mais le truc, c'est que. Non, mais c'était ça, moi, j'en ai vu un, j'ai vu Festen. Non, mais j'ai vu Festen, et c'est le seul truc dont je me rappelle,
c'est qu'apparemment,
c'est censé être des acteurs qui, quand ils couchent ensemble, ils sont censés coucher sur le plateau, c'est ça ce que je veux dire, quoi. Mais c'était leur approche à l'époque, hein. C'est pas moi qui invente le truc. Bref, et. on s'emporte,
Avec ta voisine.
Non, mais c'est bref. Mais le truc, c'est que, en gros, t'as. t'as cette approche humaine, en fait, si tu veux, qui je trouve, en fait, est ramenée, parce qu'on sent que c'est pas forcément ce qui intéresse totalement non plus Vinterberg, quoi, ramenée un peu au truc un peu plus plat. C'est-à-dire que ça l'intéresse plus de traiter le personnage de Léa Seydoux sur son combat, si tu veux, contre l'aspect administratif, contre ce genre de choses, traiter le personnage de Max von Sydow comme une figure extraordinairement revêche à l'aide extérieure, ce genre de choses, et juste démontrer ces choses-là comme un fonctionnement, en fait, administratif, politique, plutôt qu'un film qui a cette valeur humaine, en fait, si tu veux, et la perte des gens. La scène dont parle...
David Honora.
Ouais, ça va. Et la scène dont parle David, c'est une des seules scènes, je trouve, vraiment, en fait, pour le coup, un petit peu incarnée humainement, en fait. C'est-à-dire l'histoire de blague où les mecs la connaissent, donc ils lui spoilent la blague et il fait mais merde, vous faites chier, tu vois, il faut que je la relance, tu vois. Enfin, tu as tout un truc où tu te dis bon voilà, il y a une espèce de fonctionnement de camaraderie dans leur relation, en fait, où ils essayent de tous de survivre. Qui est à peu près le seul moment pour moi où on ressent un peu émotionnellement du truc, quoi. Et voilà, c'est un peu le souci que j'ai avec le film. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on se retrouve en fait en face d'un film qui est, encore une fois, proprement fait, pas désagréable à regarder en soi, mais bon, sur un sujet comme ça, ça devrait être un peu plus désagréable, justement. Et ça devrait être un peu emporté, et c'est pas vraiment le cas, en fait. Donc voilà.
Périne.
Ouais, je trouve déjà appréciable que le film est absolument anti-spectaculaire, c'est-à-dire qu'à un moment, il cherche pas jamais à justement, il est très dans les faits, très dans l'intime, puisqu'on est le point central, l'accroche centrale presque du film, c'est ce couple joué par Matthias Schoenaert et assez doux. Voilà, donc c'est un petit peu autour de ce couple-là que va s'articuler un petit peu tout le reste. Et on cherche jamais à rentrer dans le grand spectacle. Au contraire, le truc le plus presque grand spectacle du film, c'est l'explosion des missiles là au début, qui arrive très très rapidement dans le film d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en plus on crée pas de faux suspense autour de la catastrophe. On fait pas attendre la moitié du film pour nous faire voir qu'il y a une catastrophe avec le Kursk. Ça arrive dans les 10 premières minutes à peu près. Et ce que je trouve plutôt intéressant, je trouve qu'il y a quelques très très bonnes idées dans le film réellement. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur un mariage, il y a une petite scène sur le port où ils sont pas payés, enfin ça passe à l'as assez rapidement, mais on arrive sur un mariage et en fait on nous présente tous les personnages qu'on va retrouver au sein du sous-marin et sur terre les femmes principalement dans cette scène là on nous les présente tous d'un seul coup avec un seul plan, on les voit, ils rigolent, ils s'entendent bien, il y a de la camaraderie, il y a de l'entente, il y a du soutien. C'est plutôt, moi je trouve que c'est une scène très très réussie d'ailleurs. C'est une scène de mariage, elle emporte assez rapidement, ils se mettent à chanter ensemble. Tout de suite, on a l'impression de faire partie de cette espèce d'équipe, de cet équipage en tout cas. Donc ça fonctionne plutôt, plutôt très bien. Et hop, bim, il y a la scène d'explosion très rapidement et on en perd la moitié, quoi. Donc je trouve que ça, c'est assez osé en termes de. C'est-à-dire qu'on nous a présenté des gens et des personnages très importants, enfin des acteurs très importants, très connus. Genre Auguste Dill par exemple, qui est un acteur quand même relativement connu, et ces personnages disparaissent d'un seul coup, et donc j'ai été prise d'un seul coup d'une sorte d'émotion assez rapidement. Après, je trouve que le film, voilà, comme il oscille en permanence entre la condition des sous-mariniers, comment ils sont coincés, comment ils tentent de survivre avec les histoires d'oxygène, de machin, ce qui marche plutôt bien en fait. Moi je trouve que le moment où on est enfermé avec eux, c'est des vrais moments de tension, c'est des vrais moments. Et comme disait David, je suis d'accord, moi aussi je me souviens de la catastrophe, mais j'étais persuadée qu'il y en avait un ou deux qui s'en étaient sortis. Bon, bah non.
Un ou deux comme ça,
ils avaient pu, ouf, flop.
Ils étaient remontés, mais non.
Du tout.
Et surtout, le film fait penser ça. On s'accroche avec eux, ça fonctionne.
Et en même temps, voilà, on s'attache vraiment à eux et on a cette sensation d'enfermement, cette sensation de survie et de camaraderie, de tentative de folie. Enfin, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et on oscille avec ça, avec la position des familles, l'attente, la méconnaissance. Et derrière l'action du gouvernement et de l'aide internationale. Donc on est vraiment sur trois pôles, et parfois les pôles ont un tout petit peu de mal à communiquer les uns avec les autres. Après, je trouve que c'est assez intéressant de la part de Vinterberg de faire un vrai film à charge, même si tu dis que ça a été un petit peu tamisé, Stéphane, potentiellement.
C'est ce que j'ai lu, ouais.
Mais moi je trouve que justement j'ai été étonnée en fait justement par la charge qu'est le film. Le film ne va pas par quatre chemins pour clairement dire c'est la faute du gouvernement, du gouvernement russe. C'est la faute des militaires russes. C'est la faute de la façon dont ça a été traité, cette histoire. Et donc le film est vraiment axé là-dessus, est très en colère, même si c'est des petits passages comme l'histoire de la femme piquée, donc c'est les méthodes russes, d'une certaine façon.
Ouais, mais c'est quoi les méthodes russes?
Parce que les méthodes russes, c'est des méthodes de dissimulation, c'est des méthodes de mensonge, c'est des méthodes de manipulation. Et ce que je trouve intéressant, c'est par exemple cette séquence où Léa Seydoux, en regardant la télé, en apprend plus sur l'affaire que ce que lui disent les autorités. Donc en fait, clairement, il y a pas mal de séquences, je trouve, qui sont intéressantes sur comment le secret, la manipulation saute au cœur de cet échec total qui a mené à la mort de je sais plus combien, mais beaucoup
118,
de voilà, 118 sous-mariniers. Donc c'est quand même très impressionnant. Il y a des scènes que je trouve très intéressantes, c'est des scènes où on revient en permanence avec l'espèce de sous-marin tout pourri, enfin l'espèce de module tout pourri qui est censé ouvrir la trappe, qui n'y arrive jamais parce qu'il n'est pas adapté. Elle revient plusieurs fois, on recrée de l'espoir, plusieurs fois, c'est très intéressant ce système en termes de rythmique de film, je trouve que ça marche très bien. Mais il y a des choses atroces dans le film, notamment le traitement du gamin. Je trouve que c'est une catastrophe de vouloir absolument filmer ce gamin, de vouloir absolument faire passer l'émotion à travers le gamin. Je trouve que ça devrait être interdit de continuer à faire ça, de continuer à utiliser un gamin prétexte pour faire passer l'émotion. Ça ne fonctionne pas. C'est tiré par les cheveux. C'est du tire-larme de base. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça, vraiment, je trouve qu'il y a des grossièretés dans le film à ce niveau-là qui ne servent à rien. Là où, pour le reste, le film, justement, est très tenu. Le film ne part pas, justement, dans le truc complètement larmoyant ou complètement une tragédie totale. Il est tragique parce que l'histoire est tragique, mais il ne cherche pas à surenchérir sur cette tragédie, et je trouve que c'est plutôt intelligent. Après, il y a clairement des problèmes de personnages. On a notamment Colin Firth, qui n'est pas dans le même film que les autres. Clairement pas. Il est pas du tout, il ne se comporte pas comme les autres, il n'est pas du tout dans le même film. Vraiment, quand il a un insert, je fais « Ah, ils ont pris des scènes d'un autre film qu'ils ont calé là-dedans. » Ça ne fonctionne pas.
Alors ça, moi je trouve ça intéressant, le personnage de Colin Firth, donc en fait, qui en fait incarne un peu l'aide internationale potentielle. Et donc, il y a tout un arc narratif qui est très important, enfin, dont on a déjà parlé là, dans le film, c'est la frustration et la problématique morale du fait que en gros les Anglais ont le matériel pour très simplement les sauver.
Ils ont la possibilité de les sauver.
Colin Firth, au nom d'une sorte de morale de marin, dit que ben il faut tout préparer, il va tout faire pour essayer d'y aller à temps, et il fait face à la rigidité russe. Et en fait, le truc, c'est qu'il est effectivement dans un autre monde. Et il y a un truc quand même intéressant, je trouve, là-dessus. C'est que moi, je me souvenais plus exactement, je me souvenais de l'histoire, alors, et pas de l'issue. Et surtout, je me souvenais pas exactement à quelle époque c'était. Et il y a un truc, c'est qu'on est une dizaine d'années après la fin de l'URSS. Et en fait, visuellement, même dans le traitement, on se dit, mais ça pourrait être les années 80 ou 70. Ouais. Enfin, c'est très difficile de savoir dans la Russie de cette époque.
Parce que c'est des prolos aussi. Hein.
Parce que c'est des prolos, parce que ils sont dans un port de soldats, etc. Et en fait, il y a un truc intéressant sur le passage d'une époque à l'autre, et qui est notamment incarné par les parents qui se souviennent de l'âge d'or, en fait, de l'URSS. Et qui disent, bah non, faut leur faire confiance, faut absolument leur faire confiance, jusqu'à la scène juste avant celle dont parlait Stéphane, où elle bascule.
Un des chefs, un des capitaines du sous-marin, en fait, qui parle du déploiement de la Russie, en fait, et des exercices où 10 ans auparavant ils avaient 3 fois plus de vaisseaux.
C'est
en fait,
très intéressant.
Et donc on sent ce truc de la Russie entre deux âges. Et je me dis, enfin, ma lecture que j'avais sur le personnage de Colin Firth, c'est qu'en fait, il est ailleurs, quoi.
Il représente un autre monde.
Pour revenir à cette histoire de manœuvre et tout ça, c'est ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'ils étaient en train de faire des manœuvres justement pour montrer la puissance militaire de la Russie, et que c'est là que ça a merdé.
Après, on peut aussi dire que Colin Firth est un acteur de merde.
Non.
On peut aussi dire ça.
Ça dépend des films.
Non, mais c'est clairement pas ça le problème, c'est qu'il est juste pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est tellement en décalage.
Moi, je pense que ce personnage-là, il est exactement. Pour moi, il a le même problème que Max von Sydow ou que le gamin, justement, en fait. C'est qu'en fait, ils sont censés représenter un bloc de pensée, en fait, si tu veux, qui pour moi...
c'est des idées plus que des personnages.
Voilà, et le truc, c'est que tu as le gamin, en fait, à la fin, qui refuse de serrer la main de Max von Sydow, tu vois, c'est un truc où tu te dis, mais à 10 ans, en fait, t'es déjà capable
de...
Et du coup, en fait, effectivement, c'est une idée plus qu'une réaction émotionnelle, en fait, dans le film. Et c'est ça pour moi, c'est ça qui est toujours problématique dans...
C'est un peu forcé,
tout est forcé pour moi, en fait, dans ce genre de truc.
L'idée de l'enfant, d'ailleurs, elle est vraiment appuyée dans le film, parce que le film s'ouvre sur... sur l'enfant, oui. Et sur le avec sa mère qui lui court après. Et en fait, le problème, c'est que dans le reste du film, le personnage n'est pas du tout développé, donc il n'existe pas, l'acteur n'est pas extraordinaire, et enfin, on le voit pas, de toute façon.
C'est contre-fou.
Donc en fait, il y a vraiment un truc théorique de son apparition au début à la fin. Et puis,
c'est un truc très mécanique qui, pour moi, ne sert littéralement et à rien. Et je reviens juste deux secondes sur ce que tu avais dit, David, sur les nationalités différentes de tous les acteurs. Moi, je trouve qu'au contraire, ça marche très bien, cette idée qu'à un moment donné, moi, je déteste ça. Enfin, j'en ai marre dans les films que d'un seul coup, on prenne des acteurs étrangers, on leur fasse faire un accent russe. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule à regarder. Donc là, au bout d'un moment, bah, qu'ils se mettent tous à parler en anglais avec leur accent à eux, personne ne cherche à trafiquer son accent. Et ben, je trouve que c'est plutôt agréable à regarder parce que d'un seul coup, je me sens pas perturbée par un faux accent russe un peu dégueulasse. Là, au bout d'un moment, bah, très bien, Léa Seydoux, bah, elle a un léger accent français, très bien, machin, il a un léger accent bel flamand. Enfin, je m'en fous, en fait. C'est-à-dire parce qu'au bout d'un moment, le sujet, c'est pas tellement qu'il soit russe, en fait. C'est vraiment la tragédie de ces hommes-là dans cette espèce d'épave au fin fond de l'eau et comment on survit. Donc finalement, peu importe leur accent. Donc je trouve que ça fonctionne. Parce qu'on survit pas, en fait. Voilà. Hein, parce que le
18e spoiler de cette émission.
Le fond de l'eau, c'est comme l'espace.
C'est toujours le même. Hein, mais oui.
Toujours le même. Parce qu'au cas où vous n'avez pas compris, ils s'en sortent
ils
pas.
Ils ne s'en sortent pas. Mais nous, oui, c'est ça qui est beau. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme toujours un rapide tour de recommandations à destination de nos auditeurs. Pas d'obligation, forcément, à rester dans le monde merveilleux et pas du tout anxiogène des films de sous-marins. Vous faites comme vous voulez. David.
On commence avec moi, donc j'improvise.
De fait, quand je dis ton nom, c'est qu'on commence avec toi.
Non, mais je vais pas passer en revue les grands films de sous-marins, parce que déjà, en plus, je crois que Stéphane en a un sous le coude.
Stéphane en a un, il a mis
les recos des autres.
C'est l'émission spoiler.
Et puis, il faut absolument revoir une 50e fois à la poursuite d'Octobre Rouge, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
C'est une évidence.
Mais du coup, ça fait un lien avec une de nos précédentes émissions sur First Man.
Tout à fait.
J'ai envie de recommander Apollo 13. De Ron Howard qui alors je vais pas spoiler la fin pour les gens qui sont les gens qui se rappellent pas mais qui est sur une enfin voilà des enjeux assez similaires en fait la grande réussite pour moi d'Apollo 13 c'est traiter le rapport entre les victimes d'un accident qui sont confinées dans un tout petit espace et des gens à distance qui vont essayer de résoudre le problème. On est exactement dans la même typologie d'enjeu. Et dans Kursk, c'est à mon avis une des faiblesses du film, c'est-à-dire que je trouve les scènes dans le sous-marin beaucoup plus réussies que tout ce qui se passe à l'extérieur. Et dans Apollo 13, ce que je trouve vraiment très réussi, et il n'y a pas beaucoup de films aussi réussis dans la filmo de Ron Howard, malheureusement.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est justement la manière dont sont mises en scène les interactions, tout le découpage et l'écriture du film, je trouve assez brillante, en fait. Et voilà, c'est un film qui vaut certainement le coup d'être revu à l'aune, par exemple, de First Man en salle en ce moment.
Stéphane.
Moi, je suis assez basique, en fait, dans mon approche, parce que sous-marin russe, film de sous-marin russe, voilà, donc avec des acteurs américains qui ont un accent, c'est K-19 de Catherine Bigelow, qui est, moi, je trouve, un des films les plus injustement sous-estimés de sa carrière. Déjà en premier lieu parce que en fait moi c'est le premier film qui me saute en tête quand on parle de blockbuster réalisé par des femmes où l'an dernier on nous a fait un pataquet sur Wonder Woman avec ça et en fait 15 ans avant où était tout le monde quand Catherine Bigelow faisait un film à 100 patates avec enfin c'était une réalisatrice quoi. Donc ça c'est un peu un des trucs qui me reste un peu en travers de la gorge aujourd'hui sur ce genre de truc quoi. Mais indépendamment de ça, c'est aussi un très très beau film en fait, je trouve, dans son approche sacrificielle des personnages, parce que c'est l'histoire en fait du premier sous-marin russe qui en fait a une fuite et d'un seul coup en fait tout l'équipage se sait condamné.
Oui.
Là pour le coup, il y en a qui survivent en l'occurrence, mais et en fait qui doivent par contre contenir la problématique en fait nucléaire quoi. Et du coup, t'as pas mal de scènes hyper intenses et très très belles en fait où tu te retrouves avec des types qui partent dans le réacteur nucléaire. En fait, ils savent qu'ils n'en reviendront pas, ou qu'ils y reviendront avec des séquelles à vie, quoi. Et elle a tourné ça de manière assez, alors je sais pas si le terme est correct, mais il y a un côté un peu christique, on va dire. C'est pas la passion du Christ non plus, hein, mais voilà.
Certes.
Mais voilà. Donc en fait, c'est un film. Et pour le coup, c'est un film qui, moi, je trouve, fonctionne émotionnellement malgré. Je trouve le casting d'Harrison Ford, et là c'est même pas une question que d'accent, c'est juste qu'à cette époque-là il se faisait déjà plus trop chier, quoi, au cinéma, quoi. Non mais c'est vrai, enfin c'est un peu un problème, mais je trouve que pour le coup il tient pas la dragée face à Liam Neeson qui est vraiment excellent dans le film, quoi. Où à l'époque lui aussi se faisait un peu plus chier déjà que maintenant, quoi. Mais donc voilà, donc moi je trouve que c'est un très très beau film, vraiment sous-estimé. Qui est totalement différent de, par exemple, La Poursuite d'Octobre Rouge dans son approche. Et bon, La Poursuite d'Octobre Rouge, on n'en fait pas de reco dans l'absolu, mais c'est un film. Là, on aurait pu en faire une reco vis-à-vis de Kursk, qu'en fait, c'est que c'est un film qui, je trouve, gère beaucoup mieux les relations internationales et diplomatiques, en fait, puisque c'est tout l'enjeu du film, comme un peu dans Kursk, quoi. Les gère beaucoup, beaucoup mieux là-dedans, bon, c'est, voilà, que Vinterberg, quoi, dans Kursk. Donc voilà, mais. Ouais, voilà, K-19. On peut aussi dire Crimson Tide de mon regretté Tony Scott, quoi, que moins bien je trouve quand même que les deux,
ouais,
les deux
Tony Scott,
voilà, je suis musclé,
toujours bien à prendre,
voilà. Et puis bon, là c'est pareil, tu vas pas croire du tout à l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale, parce que t'achètes pas le truc, mais t'as un beau duo d'acteurs avec Denzel Washington et Gene Hackman, et puis la mise en scène de Tony, quoi.
Sir Tony Perrine.
J'ai cru que tu m'appelais Tony.
Non, je t'appelle pas Tony. Pas encore, ça viendra. Prochaine émission.
Oui, je me suis sentie un peu
dépourvue.
Tony Kenson.
Tony Kenson.
Ça marche. Franchement, j'achète.
Ah, c'est le Nord.
J'étais un peu dépourvue sur Kursk, surtout quand K-19 a été pris et que La Poursuite d'Octobre Rouge était dans l'intro.
Donc, t'a prévenu.
On t'a dit,
bah, oui, c'est
avant
ça mon
l'émission.
Problème. Bah, oui, mais bon, voilà. Et oui.
David a donné.
C'était pas pour réagir. Je vais le dire à la fin. C'était juste un teasing pour Thomas.
Okay.
Spoiler.
Mais ouais, alors, moi, il y a de l'eau, il y a une catastrophe, il y a un couple au centre.
Waterworld. Ah non, merde. J'étais presque.
Moi, j'étais sur Titanic.
Abyss.
J'étais sur Titanic.
C'est de ça que je voulais parler.
Hein,
vas-y. Non, j'allais dire un truc sur James Cameron.
Mais moi, j'ai parti sur Titanic. Parce que voilà, donc je viens de le dire, de l'eau, de la catastrophe, du cool, du froid, enfin couler, hein,
oui.
Froid, ah oui, pas cool, cool. Voilà. Là, par contre, on a une approche beaucoup plus, en tout cas, un peu plus romanesque, un peu plus spectaculaire, hein, clairement, que dans ce film-là. Mais je trouve que finalement, on peut faire des petits points d'ancrage entre les deux. Voilà, un couple au centre, l'enchaînement de mauvaises réactions qui fait que on va pas sauver tout le monde. Parce que, spoiler alert, beaucoup de gens sont morts sur le Titanic.
C'est vrai.
Et
on oublie de le dire.
On oublie de le dire régulièrement. Donc voilà, on est aussi sur une histoire d'enchaînement de mauvaises réactions. Voilà, la comparaison s'arrête là. Hein, parce qu'en termes de mise en scène, on n'est plus du tout dans des choses similaires. Hein,
pas vraiment.
Plus du tout. Plus du tout dans les mêmes ambitions non plus, hein, en termes de budget, clairement. Mais un petit combo, catastrophe, tiré de fait réel. C'est ce qui manque à Kursk, hein, clairement. Hein,
clairement.
Il manque un petit Céline. Hein, donc voilà, on a un petit peu. Mais voilà, je voulais rester dans la catastrophe, dans de l'eau froide, tirée de fait réel, quoi.
Très bien.
Et donc juste pour conclure, j'avais un petit bonus de fin, parce que j'ai cru qu'on allait faire une émission sur les sous-marins sans parler de James Cameron, ce qui aurait été dommage.
Aurait été
et en plus, il y a un truc dans le film.
C'est qui James Cameron?
On connaît sa passion pour les fonds marins et tout, mais en fait, il y a un truc dans le film qui est que. Finalement, Titanic, le film, est probablement en partie responsable de la mort de ces sous-mariniers, parce qu'ils avaient aussi des modules d'accès sous-marins qui n'étaient pas disponibles, ils le disent dans le film. Parce qu'ils avaient été rachetés par les Américains pour que des riches touristes aillent explorer l'épave du Titanic.
Ah,
et ce, bon, quelques années après
ça
le...
Ça sent quand même la pique d'un petit réalisateur du dogme, tu vois, contre un...
Et ils citent pas James Cameron, je dis pas que c'est
non,
de la
mais
faute
bon,
de James Cameron. Mais il y a ce lien qui, avec le revival suite au film, a donné envie d'aller voir l'épave.
Perrine avait levé le doigt à son tour,
décidément. J'avais juste une toute dernière mini-chose, c'est que... Il y a y a un film français qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle Le Chant du Loup, qui est un film de sous-marin aussi, sur un sous-marin nucléaire, et qui est basé plutôt sur les gens qui ont une espèce d'oreille absolue, qui entendent les moteurs sous l'eau. Et donc c'est un film, ça va être un thriller sous-marinier français qui débarque en début d'année prochaine.
Avec
donc Le Chant du Loup. Avec notamment François Civil, Omar Sy, et j'ai oublié la suite du casting.
Ouais,
mais il y a des gens plutôt pas mal. Et Reda Kateb et Mathieu Kassovitz.
Très bien, Et bien, on suivra ça avec attention. Merci Perrine, merci Stéphane, merci David, merci Jules à la technique. Notre temps est écoulé. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
Binge.
Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, je peux les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.